When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On est là toutes les deux semaines dans vos oreilles pour vous parler de tout ce qui s'est passé. Une seule émission que vous avez à écouter, c'est celle-ci. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir une fois de plus dans cette émission Daniel Charby en direct de l'Angleterre. Comment ça va ? Daniel Charby.
Eh ben, super, et toi ?
Écoute, mon petit loulou s'est réveillé à 5h30 du matin, comme je te disais avant de commencer à enregistrer. Donc, ça va, c'est bon.
Donc, en fait, c'est le début d'après-midi pour toi, là.
Exactement, donc c'est le moment où je suis le plus productif. oui, bah, ça fait un petit moment, effectivement. On va rappeler peut-être aux auditeurs qui ne se souviennent pas de qui tu es, que tu es un ponte de l'industrie tech. Et voilà. Surtout, tu travailles chez Dell, tu es passé chez Alienware, etc. Et surtout, tu es un de mes plus vieux amis. Certainement que je suis l'un de tes meilleurs amis, évidemment, ouais. Si ce n'est le meilleur, n'est-ce
évidemment,
pas ?
Évidemment, évidemment. Voilà. Et un des plus vieux, hein, parce que je crois que de l'époque, ouais, t'es peut-être un des deux, trois derniers qui restent.
Hein. Oui, c'est vrai.
Alors, en termes d'ancienneté, hein, parce que
oui.
Bon, évidemment.
Oui, on va pas commencer à devenir morbide. Oui, je sais pas si on en a déjà parlé, peut-être que c'est la quatrième fois qu'on en parle, mais ou la 12 millième fois, mais c'est vrai que la raison pour laquelle je t'ai rencontré la première fois, on devait avoir 16 ans, c'était parce que t'avais une Super Nintendo importée du Japon et que je voulais voir ce qui était Super Mario World. Et c'est pour ça que je suis venu chez toi, t'étais un ami d'un ami, et en fait, c'était purement intéressé, quoi, complètement de ma part.
Et depuis, t'as tapé l'incruste, en fait, toutes les semaines, tous les week-ends, tous les samedis et dimanches, pour essayer de terminer Super Mario World.
C'était ça, exactement. Dany était tranquillement en train de se prélasser dans son canapé, et tout à coup, il y avait sa sonnette qui sonnait, parce qu'évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, hein, on parle d'une époque antédiluvienne, et son interphone qui sonnait, bonjour Daniel, j'étais dans le quartier, je voulais savoir si tu voulais prendre un coca. Et bon, forcément, comme tu étais trop poli pour me dire de partir, je pouvais jouer à la Super Nintendo, c'était très cool. Mais aujourd'hui, on a plein de choses dont on va parler, des jeux au moins aussi cool, et notamment Days Gone, auquel toi et moi avons joué un petit peu. Et puis, il y aura des news sur Borderlands 3, Bloodstained, Epic, qui fait encore des choses intéressantes, les nouveaux casques de chez Oculus et de chez Valve, des news Nintendo et plein d'autres choses. Donc, je te propose qu'on se lance immédiatement avec le jeu qui sera très certainement le jeu de l'année, puisqu'il a tout pour réussir. Hein. C'est un jeu post-apocalyptique avec des zombies, un jeu narratif qui est en open world, avec une écriture habile, une motion capture et un jeu d'acteur qui est plutôt réussi. Days Gone. Il était quand même assez attendu de la critique et des joueurs. Et évidemment, c'est une réussite éblouissante, n'est-ce pas, Dany ?
Eh bien, écoute, non.
ta réponse, c'est en fait, on pourrait s'arrêter à ça. On pourrait s'arrêter à ça.
Alors déjà, il faut replacer le contexte. Hein. J'ai adoré Red Dead Redemption 2, mais adoré.
D'accord. Donc bon, tu fais pas partie des gens comme moi qui ont été rebutés par la lenteur.
Il est très très lent. Moi j'ai continué, j'ai tenu bon et le jeu en vaut la chandelle. L'écriture, le scénario, les jeux d'acteurs, tout c'est une claque dans la gueule. Alors effectivement, par contre, le rythme est très très lent et ça prend beaucoup de temps en fait pour commencer à apprécier l'histoire. Surtout que j'avais pas du tout aimé en fait l'introduction des personnages. Ça prend du sens en fait quand tu avances dans le jeu et quand tu termines dans le jeu, mais au début, quand tu débarques et que tu vois le début, c'est qu'est-ce qui se passe, je comprends rien, c'est compliqué, machin, et c'est pas super immersif. Mais le jeu en vaut la chandelle et ma recommandation, c'est si t'as du temps, continue et essaye de le terminer, c'est magnifique. Alors, okay. Une fois que t'as joué à Red Dead Redemption 2, Days Gone, ça fait un peu quand même le jeu à monde ouvert, un peu le jeu à monde ouvert du pauvre, je trouve. Parce que le scénario a l'air plus classique. Alors bon, j'ai joué une heure, hein, donc c'est pas...
Ah, t'as joué qu'une heure, d'accord. Bon, c'est quand même très limité.
Oui, mais au bout d'une heure, je m'ennuyais. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que j'ai d'autres jeux plus sympas auxquels j'aurais envie de jouer ? La réponse était oui.
C'est ça qui est...
Et c'est dommage.
C'est ça qui est terrible, en fait, parce qu'on en parle et on est un petit peu... comment dire ? On s'en moque un petit peu, mais je trouve que c'est pas vraiment justifié, parce que le jeu est bon. C'est un jeu dont toutes les qualités... que j'ai cités sont réels. Ou plutôt, bon, c'est des caractéristiques que j'ai citées, mais tous ces éléments sont réussis. Le jeu d'acteur est effectivement bon, c'était pas de l'ironie. Pas mal, ouais. Le motion capture est bon, le monde est magnifique. L'open world est plutôt motivant. Les mécaniques de gameplay sont assez classiques, mais fonctionnent, quoi. Je veux dire, c'est pas
oui,
que.
Ça va. La conduite de la moto m'a pas du tout plu.
Ouais, c'est vrai que la moto est un élément central qui est peut-être un élément distinctif de ce jeu par rapport aux autres. Il représente beaucoup de fonctionnalités de gameplay et c'est vrai que c'est peut-être pas le plus réussi dans la conduite, quoi.
Et j'ai du mal à m'intéresser en fait au personnage et à l'histoire de fond. Peut-être que ça s'améliore grandement, comme dans Red Dead Redemption. Hein, en fait, le début était un peu m'avait pas trop plu. Et peut-être qu'effectivement, quand t'avances dans Days Gone, l'histoire devient éblouissante. Mais le début, l'introduction, et j'ai eu du mal en fait à trouver un attachement et un intérêt à l'histoire de ces personnages.
Bah, c'est des bikers un petit peu caricaturaux. Moi, j'ai joué, je ne sais pas, entre 5 et 10 heures, je ne me souviens plus exactement. Et je suis un petit peu... J'ai l'impression que c'est vraiment dans la continuité du début, donc je doute que tout à coup, ton opinion se transforme sur le jeu. C'est un petit peu caricatural. Il y a des personnages qui sont, autres que les personnages principaux, qui sont aussi pas hyper fins. Mais... c'est pas rédhibitoire, mais au final, il y a effectivement cette impression de, après avoir joué à Red Dead Redemption 2, quand on essaye un autre jeu en open world, ça fait un petit peu un jouet. Et je me souviens avoir eu cette impression très fortement après avoir joué à Red Dead Redemption 2 quand j'ai lancé Assassin's Creed Odyssey, que pourtant j'adore, et d'ailleurs auquel j'ai recommencé à jouer. Et ben c'est vrai que ça fait très très version enfantine du même type de jeu. Et là, l'impression est la même, ça fait vraiment parc à thème, où on est sur la moto, mais on est sur la moto 2 minutes et on arrive à l'activité suivante. Ça fait Disneyland du monde ouvert, quoi. Et c'est un petit peu frappant. C'est pas forcément une mauvaise chose, encore une fois. Les mécaniques avec les zombies, les mécaniques de furtivité fonctionnent, les armes ont un bon feeling, mais au final, si j'essaye de résumer mon sentiment après 10 heures, ou presque 10 heures, c'est que c'est pas un jeu qui est mauvais, et plusieurs personnes ont dit ça, mais je le ressens vraiment, s'il était sorti il y a 5 ans, ça aurait été un must-play absolu.
Alors, avant Witcher 3.
Peut-être avant Witcher 3, ouais.
C'est un coup de vieux, je pense.
Peut-être. Surtout que Witcher 3 était plus motivant. Mais ouais. Il est sorti quand ? C'est 2013, Witcher 3 ? Ou 2014 ?
14, je sais plus. 13 ou 14, mais bon. En tout cas, voilà. Et je pense qu'effectivement, ces deux jeux-là, donc Red Dead et Witcher... Ils ont un peu mis la barre, placé la barre très très haut pour les
Open World. Witcher 3, c'est 2015. Donc, tu vois, effectivement, si je parle de 5 ans, on se retrouve donc en 2014. Je crois qu'on était encore à un moment où ce type de jeu aurait été impressionnant, quoi, et où tout le monde en aurait chanté les louanges. Mais aujourd'hui, j'ai tellement de jeux. En fait, celui-là, il est sympa, mais ça me laisse un petit peu neutre, alors que j'ai plein de jeux auxquels je n'ai pas encore joué qui me procurent vraiment du plaisir. Et c'est ironique qu'on ait évoqué Red Dead Redemption 2 et mon retour à Assassin's Creed Odyssey, parce que avant de lancer Days Gone, deux semaines avant qu'il sorte, je me suis remis à jouer à Assassin's Creed Odyssey et j'y ai pris un plaisir absolument fou. Je trouve que vraiment Assassin's Creed Odyssey, il est sorti dans une année où il y avait tellement de jeux excellents qu'il est, même si on en a dit beaucoup de bien, il est un petit peu passé sous le radar, et je m'y suis remis donc il y a quelques semaines, et quand j'ai le choix entre Days Gone et Assassin's Creed Odyssey, je me dis, mais c'est clair, le choix de celui auquel j'ai envie de jouer, il est hyper clair. Et c'est juste qu'un exemple, il y en a plein de jeux dans mon backlog où j'ai plus envie de jouer qu'à Days Gone. Mais c'est l'une des premières fois où j'ai ce sentiment où c'est pas une critique froide, au sens négatif, du jeu dont je parle. Parce que Days Gone, je peux pas dire qu'il est mauvais. Il est même plutôt bon. Je sais pas si t'es d'accord sur ce point, mais je le trouve plutôt bon.
Je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il est juste plutôt bon et que il est un peu perdu dans... Enfin, je pense, pas mal de jeux plutôt bons en ce moment. Et je pense qu'il est perdu, un peu noyé dans la masse. Et effectivement, des jeux comme Assassin's Creed Odyssey, à mon avis, ils sont plus plutôt bons pour moi que Days Gone.
Ouais, moi, enfin, Assassin's Creed Odyssey, je dirais même qu'il est carrément très, très, très bon. Il est excellent.
Il est super sympa, ouais. Ouais. Il est super sympa.
Et c'est bizarre parce que, alors peut-être que les attentes avaient été d'abord tellement descendues que quand on a vu les previews, on s'est dit, bon, peut-être qu'il sera pas mal finalement. Et on est vraiment complètement. Je sais pas, le résultat sur ma psyché de joueur, c'est le neutre absolu. Même si je trouve qu'il est plutôt bon, moi il me fait rien, quoi. J'y joue, j'ai l'impression de c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression de rien faire, c'est neutre, j'ai l'impression de regarder un mur, et c'est juste parce que il me procure pas de plaisir énorme, mais il me procure pas non plus de déplaisir, ça fait juste passer le temps, j'ai l'impression d'égrener un chapelet, tu vois, presque.
Je suis d'accord ouais. Et à moi il me fait penser un peu à, tu vois, un divertissement dont il y aurait tout ce qu'il faut pour que ça t'intéresse et que ça t'amuse, et c'est juste que la sauce prend pas, quoi, le mélange se fait pas pour te dire, oh c'est génial, c'est une claque dans la gueule, c'est le jeu de l'année. Et moi c'est ça, il me laisse froid, en fait. Il a tout ce qu'il faut pour être bien, c'est juste que je sais pas, enfin,
rien n'est exceptionnel aussi, ouais, en fait.
Je pense que je le désinstallerai de ma PlayStation là d'ici une semaine, quoi.
Ouais, c'est possible aussi. Je préférerais largement avoir un jeu qui soit moins bon, mais qui ait un aspect ou un élément qui soit super réussi, quoi. Où tu dises, ouais, ça c'est génial. Je sais pas, on peut prendre l'exemple, on va pas en parler pendant deux heures parce que ça vaut pas forcément le coup, mais évidemment la comparaison avec The Last of Us est forte, et The Last of Us, il a plein de défauts aussi. Je pense que dans l'ensemble il est quand même bien au-dessus. Quand il est sorti, il était éblouissant graphiquement, l'écriture, le jeu d'acteur était bien sûr bien au-dessus, mais certains éléments, enfin, ne serait-ce qu'au niveau du rythme, alors c'est plus facile dans The Last of Us parce que c'est pas un jeu en monde ouvert, on est dans un tunnel, mais au niveau du rythme, ça te gardait accroché à ta manette beaucoup plus que là où tu as, à plein de moments, il y a des trucs un petit peu qui pourraient paraître comme des détails, mais le protagoniste principal, Deacon, qui est ce biker un petit peu, comme je disais, caricatural, mais qui est pas mauvais, il narre tout ce qu'il fait pour donner du feedback aux joueurs, en fait. C'est un moyen d'essayer de dire aux joueurs les trucs importants, les éléments auxquels il faut penser, etc. Et il y en a dans plein de jeux, des trucs comme ça. Mais là, il le fait tellement, et c'est tellement... je sais pas, ça sonne pas... faux, mais ça sonne pas juste non plus. Il va s'approcher d'un endroit où il doit faire un truc et il va dire « Ah ouais, faut que je nettoie les nids de freakers !» Et parce qu'évidemment, il peut pas dire que c'est des zombies, donc c'est des freakers. Donc, faut que je nettoie les nids de freakers quand tu t'approches en moto. Et puis, quand tu pars, il dit « Ouais, non, je le ferai plus tard. J'ai pas le temps. » Ou ce genre de truc. Et quand tu t'approches d'un truc que tu peux looter et que tu lootes, il dit « Cool, je vais pouvoir m'en servir. » Mais tout le temps, tout le temps. Et c'est ça, c'est l'un des trucs qui te sort un petit peu de l'expérience. Et il y a plein de petits éléments comme ça qui font que la sauce prend pas au final, je crois. Mais bon, c'est un petit
Écoute,
peu dommage.
Je suis moins fan de Last of Us que toi. Mais effectivement, je trouve que le jeu est bien au-dessus et les 30 premières minutes de Last of Us te donnent envie de continuer.
Ouais, et ça, il n'y a pas
quoi
vraiment.
Quoi qu'il arrive.
Il n'y a pas vraiment dans celui-là. Et oui, les 30 premières minutes de Last of Us. Mais bon, donc au final, moi, ce que j'en retiens de ce jeu, c'est que Bend Studios est un studio hyper capable. Vraiment, ils ont sorti un triple A de grande qualité. Il n'y avait juste pas de vision. Donc peut-être que sous la direction de quelqu'un d'autre, ou peut-être avec moins de checklist à cocher, ils pourraient sortir un jeu de grande qualité. Mais mine de rien, malgré la déception, ou pas la déception, mais la semi-déception qui est Days Gone, ou Days Done, puisque je suis done avec ce jeu, comme j'aime le dire. c'est un studio sur lequel je continuerai à regarder, parce que je crois qu'ils peuvent faire des choses intéressantes. Donc, voilà pour Days Gone. Parlons un petit peu d'autres news qui ont fait l'actualité ces deux dernières semaines, et notamment le gameplay reveal de Borderlands 3 qui a montré un petit peu ce à quoi on pouvait s'attendre dans le vrai gameplay de Borderlands, avec la présentation qui était assez catastrophique, on va dire l'annonce d'il y a quelques semaines. Là, c'était vraiment du gameplay. Sur le jeu en tant que tel, je crois que on peut dire sans trop se tromper que c'est un Borderlands pas très imaginatif dans ses évolutions, mais amené au goût du jour avec les avantages et les inconvénients de cette approche. C'est-à-dire que les avantages, c'est un petit peu ce dont on se doutait en ayant vu les premiers trailers, mais les avantages, c'est que c'est un jeu qui va plaire aux fans et qui ne prend pas de risques. Et les désavantages, c'est que, de la même manière, c'est un jeu qui va plaire aux fans et qui prend pas vraiment de risques. Donc, c'est un petit peu plus modernisé, il y a plus de zones à explorer, il y a des éléments de gameplay qui adaptent le niveau comme on peut le voir dans d'autres jeux, notamment Destiny ou Diablo ou ce genre de choses. Non, pas Diablo, je crois pas, mais il y a du... comment dire, jump in, jump out, comme dans Diablo 3. C'est hyper facile de jouer puisque le niveau s'adapte à notre niveau, le niveau des ennemis. Oui, je pensais à WoW. Quand on rejoint un groupe dans WoW aujourd'hui en cours de leveling, le niveau des ennemis va s'adapter au nôtre et donc tout le monde dans le groupe pourra contribuer. Et bien là, c'est un petit peu la même chose et ils l'ont présenté genre « Regardez, c'est fou ce qu'on fait !» C'était genre « Oui, enfin, il y a d'autres jeux qui le font depuis longtemps, mais bref. » Et au final, c'est un truc, c'est vraiment un Diablo avec des flingues, comme l'étaient Borderlands 1 et Borderlands 2 et The Pre-Sequel et tout ça. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui est peut-être moins excitant que quelque chose de vraiment nouveau, quoi.
Ouais, je trouve qu'ils n'ont pas pris énormément de risques. Et finalement, maintenant, tu as des jeux comme Destiny ou Division qui sont aussi plutôt sympas. Et je pense que le marché est plus concurrentiel qu'il ne l'était à l'époque de Borderlands 1 ou 2. Bon, moi maintenant, ensuite, je ne suis pas aussi fan de Borderlands que toi, parce que je n'ai pas d'amis, donc jouer tout seul à Borderlands, c'est quand même moyen.
Oh, je suis un petit peu dans le même cas, hein, mais...
mais bon, globalement, ouais, de toute façon, ça va être un des gros titres de l'année. Moi, ce n'est pas forcément le titre qui va me faire sauter de joie en me disant oh, « c'est génial, je vais le précommander tout de suite ». Je suis sûr qu'il sera bien.
Il sort le 13 septembre, donc je ne sais pas s'il y aura d'autres jeux pour le concurrencer à ce moment. Enfin, 13 septembre, évidemment, c'est là que commence la grosse période. mais c'est un truc qui est... Enfin, avec le gameplay, c'est vraiment... L'idée d'avoir un Diablo avec des flingues, avec l'aspect un petit peu, comment dire, on dit hectique en anglais, mais l'aspect fouillis ou excité,
non, pas, ouais.
Je trouve pas le mot, ouais, nerveux, ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs qui se passent autour de toi et tu descends plein d'ennemis. C'est un truc auquel je dis pas non, mais oui, c'est pas non plus quelque chose d'incroyablement excitant, mais je pense que j'y jetterai quand même un coup d'œil, bien sûr. C'est le genre de jeu où tu vois le nouveau et tu dis « Ah ouais, mais c'est exactement comme l'ancien. » Et puis quand tu vois les anciens, quand tu revois les anciens, tu dis ouais, « Ah oui, d'accord, quand même. »
C'était changé, pourri.
Ouais. C'est ça. Au c'est niveau ça, des graphismes ouais. Et au niveau même du gameplay, ils ajoutent plein de trucs.
Bien sûr.
Une chose que Randy Pitchford a dit avec beaucoup d'emphase, c'était qu'il n'y aura pas de microtransactions, ce qui semblerait un petit peu, il semble jouer sur les mots comme il l'avait fait à l'époque de Battleborn. D'ailleurs, en reparlant de Battleborn, on peut peut-être comprendre pourquoi ils ne prennent pas énormément de risques avec Borderlands 3, parce qu'ils ont pris énormément de risques avec Battleborn et ils sont bien plantés.
Ils sont ramassés, oui.
Ouais, donc ça explique peut-être pourquoi ils ont fait un Borderlands 3 vraiment classique, mais il y avait eu des histoires après la sortie de Battleborn avec des questions de free-to-play ou pas free-to-play. Il l'avait dit non, pas du tout, et quelques mois plus tard, ça s'était révélé exact. Là, il a dit genre, oh, on fait pas de microtransactions, pas de machin, pas toutes ces conneries, et il n'est pas certain que ça soit exactement le cas. Donc j'ai l'impression que ça ne me surprendrait pas, on va dire, qu'il joue sur les mots. Mais bon, j'imagine que ça n'influencera pas énormément le gameplay du jeu. Donc à voir, on aura plus d'infos bien sûr à l'E3 qui est dans seulement un mois. Rendez-vous compte, l'E3 est dans un mois, je suis en train de paniquer, j'ai des sueurs froides déjà. Mais on aura plus d'infos à ce moment, j'en suis sûr. Bloodstained Ritual of the Night va sortir le 18 juin. Il a enfin une date de sortie. Alors, Dany, je suis certain que tu avais participé au Kickstarter de ce Kingavania. ce jeu développé par Koji Igarashi, qui s'inspire très fortement des Castlevania de l'époque. Je dis ça en plaisantant. Est-ce que tu avais soutenu le Kickstarter? C'était quand? C'était en 2015.
Dès le premier jour.
C'est vrai.
Je sais plus. Non, ça, c'est il y a super longtemps. Hein, ouais, ouais, le
c'était
dès 14
premier ou 15.
Jour. J'ai vu ça. Je me suis connecté. Je l'ai pris. J'ai adoré Symphony of the Night. C'est peut-être un pour un jeu de cette longueur et de cette durée, c'est peut-être un des jeux que j'ai terminé le plus de fois. Je l'ai même racheté sur PS4 quand il est sorti il y a quelques mois sur le...
C'est vrai.
Sur le PSN. J'adore Symphony of the Night. Je pense pas que Ritual of Night soit aussi bien, mais bon, si ça permet de d'éprouver peut-être 80% du plaisir de Symphony of the Night, ce sera déjà le meilleur Kickstarter de ma vie.
Alors, il était censé sortir en 2017, il a été décalé évidemment à de nombreuses reprises. Et puis surtout, dans le nouveau trailer de lancement qu'ils ont publié, il montre à quel point le jeu a évolué graphiquement. Et ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'à l'époque du premier, on va dire des premiers trailers finaux, les critiques avaient été hyper acerbes, pas malveillantes, mais vraiment, les gens disaient « j'ai beaucoup d'espoir pour ce jeu, mais là, ça a l'air quand même un petit peu limite comme qualité graphique, les animations, etc. » Et Igarashi en a fait un petit peu un jeu. Il a joué avec ça, il l'a fait de manière un petit peu théâtrale en montrant tous les commentaires, et puis lui assis à une grande table dans un château qui jette un verre de vin par terre et qui dit « Non, je ne me laisserai pas battre par les graphismes trop limites. » Et il montre justement les nouveaux graphismes qui sont effectivement bien meilleurs. C'est pas non plus les plus beaux graphismes que vous avez vus de votre vie, mais là, ça devient passable, voire sympa. Et du coup, le jeu... donne peut-être un petit peu plus d'espoir. Comme toi, j'ai financé le jeu sur Kickstarter au moment de son annonce. Donc, je l'attends sur Switch. Il sera une semaine plus tard sur Switch, donc le 25 juin. Je me demande si ça ne veut pas dire qu'il va ramer un peu. Mais bon, bref.
Et quand même.
Ah, tu sais, s'il le sort une semaine plus tard.
En mode dog, ça devrait aller.
Ouais, peut-être, ouais. Mais donc voilà, donc je l'attends quand même avec un petit peu d'impatience. C'est vraiment un jeu nostalgie, quoi. Je crois que des joueurs qui n'ont pas connu les Castlevania de l'époque ne seront peut-être pas intéressés du tout par ce jeu-là. Mais bon, à voir.
On va voir. Mais c'est sûr que pour moi, c'est la sortie du mois de juin, tu vois.
Ah, carrément.
Bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sort en juin en
Ah fait oui, par défaut peut-être, oui.
Voilà.
Par défaut.
Mais disons que de toute façon, ouais, il y a sans doute plein de jeux qui sortent et je pense que celui-là, c'est un de ceux que j'attendrai le plus, ouais, quoi qu'il arrive.
Alors, quels jeux sortent en juin? Je regarde. Effectivement, il n'y a pas grand-chose. Hein, donc, ouais. C'est peut-être la sortie juin. En mai, il y a Rage 2 qui a l'air sympa, ouais. Mais bon.
J'aurais pas trop aimé le premier, bon, on verra.
Oh, c'est très très différent. Hein.
Oui,
c'est,
oui,
c'est
oui.
Plus développé par Reed, etc. Mais... donc quoi d'autre, il y a Epic Games qui a annoncé l'acquisition de Psyonix, développeur de Rocket League, donc encore un potentiel développeur qui va être disponible exclusivement sur l'Epic Games Store pour le plus grand déplaisir des gens énervés sur Internet. C'est intéressant que Epic rachète un studio parce que je me demande si ça ne veut pas dire qu'ils vont essayer d'en racheter plus. Bien sûr, Epic, eux, ils ont Fortnite, qui est un gros succès, enfin un succès interplanétaire. Mais j'imagine qu'ils veulent avoir de plus en plus d'exclusifs et qu'ils voient le vent tourner à terme pour Fortnite, parce que rien n'est éternel. Et je me demande si Rocket League, enfin Psyonix, n'est pas le premier d'une série de rachats pour Epic qui essaye de se positionner en behemoth, en mastodonte de l'industrie, entre son store et peut-être d'autres initiatives, pourquoi pas même du streaming à terme ou ce genre de choses, une plateforme plus que juste un store, ça pourrait être envisageable. Alors, on n'y est pas du tout encore, mais ça veut dire plus d'exclusifs sur l'Epic Game Store.
Oui, et surtout aussi, ça va permettre, à mon avis, à Psyonix, par exemple, d'avoir beaucoup accès à des fonds et une portée beaucoup plus importante pour leur développement à venir. Et bon, je ne sais pas ce qu'ils ont sur leur roadmap, mais à mon avis, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Epic s'est intéressé à eux et les a rachetés.
Mmh, oui, c'est très probable, tu as raison. Et d'ailleurs, Tim Sweeney a dit que, pour la question de l'exclusivité, si Steam offrait le même type de deal pour les développeurs qu'ils le font aujourd'hui chez Epic, c'est-à-dire 88% de l'argent aux développeurs au lieu des 70% aujourd'hui chez Steam, eh bien, ils arrêteraient leur deal d'exclusivité et même ils penseraient à mettre leur jeu chez Steam. Ça ne leur poserait pas de problème et toute cette histoire d'exclusivité serait du passé. Et moi, en voyant ça, je me suis dit que c'était hyper malin parce que ça mettait la responsabilité chez Steam. C'est un peu un tour de passe-passe, mais du coup, c'est vrai que c'est de la responsabilité de Steam de s'adapter aux réalités du marché d'aujourd'hui. Mais évidemment, les gens énervés d'Internet et les gamers énervés n'ont pas du tout été réceptifs à cet argument, ce qui m'a mené à la conclusion que, en plus de ne pas comprendre les gens qui s'énervent tellement pour cette question d'exclusivité de jeu chez Epic, et j'en ai beaucoup discuté sur Twitter, enfin les arguments sont, je trouve, tout à fait sont entre le lamentable et le sur certains éléments, bon, à la limite pourquoi pas, mais ça justifie pas une telle rage, et la manière dont les commentaires et les énervés sont fermés à l'argument en question qu'essaye de mettre en avant Tim Sweeney, même si encore une fois c'est un peu un tour de passe-passe, m'a mené à la conclusion que non seulement je ne les comprends pas, mais en plus j'ai l'impression que c'est le genre de communauté avec laquelle j'ai même pas vraiment envie de discuter, parce qu'il n'y a pas de discussion possible en fait. C'est même pas « oui, mais c'est pour cette raison et pour cette raison », à quelques exceptions près, genre il y a des questions de sécurité sur l'Epic Game Store et puis des questions de fonctionnalité qui, encore une fois, ne justifient pas une telle rage. Mais au-delà de ça, les gens qui sont énervés, c'est juste « là, 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 je veux pas écouter, je déteste Epic », et voilà. Donc, ok, moi, je tourne la page sur cette histoire et à moins que les choses changent à l'avenir, c'est toujours possible, je crois qu'il n'y a plus vraiment, pour moi en tout cas, de discussion raisonnable à avoir. Je ne sais pas si tu es sur la même longueur d'onde ou si toi, justement, tu fais partie des gens que ça énerve d'avoir...
Je déteste Epic. Non, Epic ne m'intéresse pas spécialement, mais de toute façon, à mon avis, Steam a une position tellement dominante dans le marché que je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose si Epic essaye de faire changer les choses.
Ouais, mais on est sur la même longueur d'onde.
Par quel point que ce soit, tu vois. Mais de toute façon, Epic, au niveau des exclusifs et tout, au bout d'un moment, ils ne vont plus mettre d'argent dedans. Donc, je pense que leur seule chance, c'est effectivement de dire, voilà, regardez, rémunérez mieux vos partenaires Steam. Et dans ce cas, on arrête les exclus. Il y a un bon moyen pour eux d'arrêter de payer des fortunes, à mon avis, pour des jeux... AAA, type Borderlands, où je ne sais pas si le retour sur investissement sera suffisamment important, parce que finalement, il ne faut pas oublier que c'est bien d'avoir une exclu sur PC, mais à côté, tu as quand même des millions de ventes sur PS4 et Xbox, où bon, finalement, est-ce que ça vaut vraiment, vraiment le coup? J'en sais rien.
D'ailleurs, entre parenthèses, il est possible d'acheter les jeux Epic sur le Humble Store sans qu'un centime ne revienne à Epic. Donc, ils se plient vraiment en quatre pour essayer de montrer ce qu'ils essayent de faire. Donc, si vous détestez Epic et que vous ne voulez pas donner de l'argent à Epic, vous achetez vos jeux sur le Humble Store. L'argent va à des causes caritatives et vous avez quand même votre jeu. Alors, évidemment, c'est sur le Epic Store, donc ça ne change pas le fait qu'il faut installer le launcher, mais ça n'envoie pas d'argent à Epic. Donc, enfin, si vraiment c'est votre, ils vous donnent les armes pour les entre guillemets les combattre. Mais bon, je sais que ça résout pas les problèmes dont parlent les gens, mais enfin bon, bref, voilà. Je suis à bout sur ces discussions avec ces gens-là, donc je pense que
oui, j'ai
à moins
ressenti
que les choses
ça un
changent.
Peu, oui. En
non,
plus,
mais
bon,
tu sais,
de toute façon, maintenant, c'est ouais.
C'est fatigant parce que c'est le genre de communauté avec lesquelles t'essayes d'avoir une discussion cohérente. Et certains, comme je le disais, certains arguments sont compréhensibles, mais il y a tellement de gens qui se bouchent les oreilles et qui font « là, 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 je déteste » que... Bon, et c'est généralement, sur ce genre de sujet... Ça se passe relativement bien, même sur des sujets controversés ou les guerres entre consoles et machin. Généralement, j'arrive à avoir des discussions. Là, j'y arrive pas. Donc, bref. Platinum Games, l'un l'une des sociétés que les fans de jeux japonais adorent, a évoqué un projet complètement inédit, jamais vu, et d'autres jeux qu'ils vont publier eux-mêmes. Ils ont tellement travaillé avec d'autres éditeurs que je crois qu'ils ont hâte de développer des franchises pour eux, avec eux. Donc je suis curieux de voir ce qu'est ce projet jamais vu, parce qu'ils disent que c'est un type de jeu qui est vraiment hyper original, et comme on le disait, c'est du jamais vu, quoi. Je sais pas très bien ce que ça pourrait être et je sais pas si Platinum a les épaules, mais
on verra ça à l'E3, j'imagine. Je pense que ce sera une des annonces E3 de Platinum.
C'est possible, ouais, c'est possible. Est-ce que tu étais fan ou tu es peut-être encore fan de Pokémon Go? Je sais que tu adores Pokémon.
Bien, donc, j'y joue.
Tu joues encore aujourd'hui?
À Pokémon Go, oui, c'est une des petites motivations pour moi de marcher un peu plus, de faire quelques pas en plus, de dire « Oh, c'est incroyable, il y a un ratata là-bas, vite !»
Est-ce que tu es excité par Harry Potter, comment il s'appelle, le jeu de Harry Potter de Niantic, qui est justement sur la mode Pokémon Go? C'est Wizards Unite, avec de la balade en ville et de la recherche de monstres et du combat et tout. Il est disponible en bêta en Australie et en Nouvelle-Zélande. As-tu pris tes billets pour la Nouvelle-Zélande pour pouvoir l'essayer avant tout le monde?
Non, je me suis acheté un iPhone avec un abonnement australien pour pouvoir connecter dessus. Non, mais non, alors Harry Potter, je vais en faire hurler des millions, mais moi, ça ne me fait rien du tout. Je devais être trop vieux quand c'est sorti. Je n'y arrive pas. J'ai vu tous les films, hein, pourtant. J'ai essayé de lire les livres. Je n'ai pas du tout aimé le style, en fait, de l'auteur. Et donc, moi, Harry Potter, en réalité augmentée ou pas, il y a très, très peu de chances que je l'essaie, à moins qu'on me dise que c'est le jeu de l'année.
C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils sont, ils ont bien joué leur coup, ou ils vont bien jouer leur coup, parce qu'ils vont parler au, à tous les fans justement de Harry Potter, qui sont un petit peu plus jeunes que tous les fans de Pokémon. Je ne sais pas quel sera leur prochain. Moi, Pokémon, ça ne me dit rien. Harry Potter, ça ne me dit pas grand-chose. Et, mais s'ils font genre Marvel Super Heroes Together, là tout de suite ça va me parler, tu vois. Donc peut-être
tu peux attraper un Iron Man shiny.
Et pourtant, et dans des super héros de Marvel, il y en a suffisamment, il y en a certainement même plus que des Pokémon. Donc, mais ouais, c'est pas forcément un truc qui me parle non plus, mais je me demande s'ils vont réussir à reproduire en fait le phénomène de société qui était Pokémon Go. Et à vrai dire, même s'ils atteignent pas ces niveaux-là, s'ils réussissent à reproduire, comme tu disais tout à l'heure, 80% du plaisir de Castlevania, là s'ils font même 50% ou même 30% du succès de Pokémon Go, c'est une réussite quoi pour eux. Donc Mais c'est une bonne licence, Harry Potter, à utiliser dans ce contexte.
C'est pas une mauvaise idée, hein, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est une très bonne licence. Il y a un grand public. Je suis curieux de voir ce que ça, enfin, tu vois, comment ils vont réussir à tourner le jeu. Mais je pense que c'est une super opportunité. Oui.
Je me demande si, visiblement, il y a un peu plus de gameplay que dans Pokémon Go. Je me demande s'il va y avoir des clans.
Dans Pokémon Go.
Oui, oui, c'est vrai. Pardon.
Il y a des raids. Attends, ça te fait pas les raids d'en haut. Et ben maintenant, tu peux en faire dans Pokémon Go. C'est génial. Hein.
Je me demande s'il va y avoir des. Mais d'ailleurs, j'allais dire, je me demande s'il va y avoir des clans entre les gens qui se baladent dans les parcs pour choper des Pokémon et des gens qui se baladent dans les parcs pour jouer à Harry Potter. Mais ça marche comment les raids dans Pokémon Go ? Parce que le gameplay, c'était pendant très longtemps juste envoyer la balle pour essayer de capturer le petit Pokémon.
Oui, là, alors y a ça, vraiment c'était le moment où j'ai joué pendant une semaine. J'ai trouvé ça pourri, enfin pas pourri, mais très très répétitif. À l'époque, en plus, avec deux ou trois types de Pokémon qui popaient et les autres étaient extrêmement rares, et c'était ennuyeux de mourir. Donc au bout de 10 jours, je l'ai désinstallé et j'ai repris en fin d'année dernière, en fait, après donc un paquet de mises à jour et de nouveaux Pokémon ajoutés. Et effectivement, donc maintenant les raids, c'est un peu, imagine comme un raid en pick-up d'en haut. Donc en gros, c'est tu te connectes sur l'endroit où il y a le boss, donc c'est sur les arènes. Là, tu regardes s'il y a des gens qui sont en train de s'inscrire pour le combattre, ou tu peux lancer toi-même l'inscription. Les gens viennent ou pas, et ensuite...
Et ils sont autour de toi, c'est géolocalisé.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Localisé ou t'as genre des gens qui peuvent
c'est
être dans
géolocalisé.
Des
il faut être à proximité, oui. Et donc des fois, enfin moi, ça il m'est arrivé dans la rue de m'approcher de gens. On a parlé 5 minutes en se tapant le boss et en se disant bah, voilà, salut à la prochaine. Hein. Donc c'est amusant et ça permet de lier contact aussi avec les gens. À Londres, les gens sont très très ouverts là-dessus. Il y en a vraiment des quand t'as des événements Pokémon Go, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. J'ai pas vu ça à Paris, c'est pas le même effet d'ampleur, et j'imagine que effectivement hors des super grosses capitales, à mon avis, si tu vas, je sais pas, à Nice ou à Cannes ou à, tu vois, des villes un peu plus petites, ça va être beaucoup plus difficile. Mais par contre, pour tous les fans de Pokémon Go, aller jeter un coup d'œil à Londres, c'est dingue.
Et, mais tu n'as pas répondu à ma question du gameplay en lui-même.
Alors, ton gameplay, tu sais, quand tu attrapes des Pokémon, tu les fais monter en puissance, plus tu en attrapes, etc., ça prend du temps. Et ensuite, à partir du moment où tu fais ton boss raid, tu as une équipe de 6 Pokémon. Et à partir de là, chaque Pokémon, ils ont un plusieurs attaques. Donc une attaque de base que tu spams, tu sais, tu appuies sur l'écran, c'est pas très intéressant. Et au bout d'un moment, ça charge une attaque un peu plus puissante. Tu peux en avoir jusqu'à deux et qui te permet d'avoir une attaque donc chargée qui fait plus de dégâts selon le type et etc. Et donc il y a une certaine stratégie à avoir selon les forces et les faiblesses des Pokémon et selon l'efficacité de certaines attaques pour te dire voilà ce Pokémon là par exemple, je vais plutôt le construire de telle manière parce qu'il sera plus efficace que avec telle ou telle attaque. Et donc il y a une sorte
donc,
de
il y a un peu de stratégie quand même.
Ouais, ouais, ouais. Et en plus, donc maintenant dans les arènes, hors des raids, tu peux aussi donc conquérir les arènes pour gagner des golds selon le temps que tu passes dans l'arène. Et les gens peuvent venir t'attaquer ou toi tu peux venir attaquer des gens qui sont en train de défendre l'arène. Et donc c'est un peu le même système de combat que contre les boss de raid où tu peux te grouper avec plusieurs autres personnes. Je crois que j'ai jamais vu plus de 2 ou 3 personnes, mais et à partir de là tu peux taper les Pokémon ennemis pour les éjecter de l'arène. Et prendre toi-même l'arène et commencer à gagner des golds.
Et là aussi, c'est en temps réel ? Est-ce que...
C'est en temps réel, sauf quand tu es en défense. Quand tu es en défense, c'est automatiquement par la machine, sinon voilà. Mais oui, c'est en temps réel. Et donc, il faut réagir au Pokémon. Tu peux éviter les attaques. Tu peux... enfin, voilà.
D'accord.
C'est pas... c'est, tu vois, c'est... pour un jeu mobile, c'est le seul auquel je joue, en fait.
Ok. Bon,
et
sympa,
il est plutôt sympa. Et c'est une bonne motivation pour aller balader et faire quelques pas de plus. Alors, au fin fond de la Finlande, désolé, mais ce sera moyen. Mais je te conseille d'essayer la prochaine fois que tu vas à Paris, parce que c'est rigolo.
Bah, mon problème, on en revient à cette question de génération, c'est que Pokémon, ça ne me parle pas du tout, quoi. J'y ai jamais joué quand j'étais plus jeune. C'est
pas faute d'avoir essayé de faire commencer. Mais oui, je comprends.
Alors qu'il aurait suffi que tu nommes un Pokémon avec mon nom.
C'est pas tout.
Ouais, c'est ça. Bon, je vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais il semblerait que sur Anthem, les gens commencent à avoir du mal à trouver des groupes pour jouer ensemble, et ça devient pénalisant pour différentes difficultés. Donc la débandade continue, même si l'avenir sera peut-être plus radieux qu'on ne pense, puisque c'est BioWare. Austin, qui a repris le développement du jeu. Edmonton se focus visiblement sur Dragon Age 4. Et peut-être que Austin, qui sait comment fonctionnent les jeux en ligne, pourra en faire quelque chose d'intéressant. Moi, je pense que j'y reviendrai quand on aura une grosse mise à jour, parce que le potentiel reste là. Parlons un petit peu des casques de réalité virtuelle. Tiens, Oculus a annoncé les prix et les dates de sortie de ses deux nouveaux casques, le Oculus Rift S et le Oculus Quest. Alors le Rift S et le Quest d'ailleurs coûtent tous les deux $399. Ils sortent à la fin du mois, je crois que c'est le 21 mai. J'ai un doute sur la sortie en France tout à coup là, en Europe en tout cas. Donc prenez ça avec des pincettes, la date de sortie. Mais les deux casques sont assez intéressants. Le S, c'est une version améliorée du Oculus Rift, un petit peu comme les iPhone ou Galaxy S. Et c'est donc un casque de réalité virtuelle classique qui fonctionne avec beaucoup plus de... comment dire ? Qui est beaucoup plus... facile à utiliser parce qu'il n'y a pas de totem à mettre en place pour se repérer. Il y a les caméras qui sont incluses au casque. Il y a un seul câble à brancher à son PC. Donc, il est beaucoup plus simple d'utilisation, mais il reste un casque connecté au PC. Et le Oculus Quest est par contre un petit peu plus différent puisque c'est un casque qui est entièrement autonome, il n'est pas nécessaire de le connecter au PC. Tout le calcul se fait dans le casque lui-même, mais il est beaucoup plus puissant qu'un casque comme le Oculus Go, qui est beaucoup moins cher, bien sûr. Pour lequel j'avais été un petit peu déçu parce que il a deux caractéristiques qui étaient rédhibitoires pour moi pour la réalité virtuelle, caractéristiques qui sont présentes sur le Oculus Quest, c'est-à-dire que le Oculus Go ne faisait pas les 6 degrés de liberté, c'est-à-dire qu'on avait uniquement 3 degrés, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des rotations mais pas de déplacement dans l'espace. Et les manettes, enfin la manette, ne se déplaçait pas. C'était le même problème. Elle avait 3 degrés, on pouvait faire des rotations, mais pas de déplacement dans l'espace. Là, avec le Oculus Quest, on a le déplacement dans l'espace qui est possible et surtout les manettes Oculus, qui sont les manettes Oculus classiques, qui permettent de manipuler de la même manière qu'avec l'Oculus Rift. Donc on peut se déplacer, on a les mains qui sont modélisées, etc. Donc le seul problème de l'Oculus Quest, c'est que comme le matériel, le hardware est différent, c'est du matériel de mobile, mais un petit peu plus puissant quand même que pour un mobile, parce qu'ils peuvent overclocker le processeur. Bref, les jeux doivent être adaptés à l'Oculus Quest. Donc au lancement, il y en aura une 50aine, dont des gros jeux de réalité virtuelle, comme Beat Saber ou Super Hot VR, etc. Il y en a une 50aine au lancement, et puis plus qui vont arriver. Oculus est très sérieux et soutient ce produit, mais bon, il n'y aura pas tous les jeux Oculus qui seront disponibles au lancement. Donc c'est le désavantage, mais tout le reste est quand même assez convaincant. La qualité d'image est bonne, d'après les premiers tests. La puissance est suffisante, etc. etc. Donc, voilà, d'un côté, le Rift S, si vous voulez un casque classique, et puis de l'autre côté, le Quest, si vous voulez, ce qui change tout, en fait. Je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais le fait de ne pas avoir de câble, ça change vraiment énormément l'expérience. Bon, on n'a que 2h30 d'autonomie, mais je ne pense pas qu'on va passer plus de 2h30 dans un jeu de réalité virtuelle à la suite. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ces évolutions ? Je sais que tu n'étais pas super convaincu par la réalité virtuelle, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu penses de ces deux évolutions ?
Eh ben écoute, pour moi l'Oculus Quest c'est vraiment l'évolution la plus intéressante, parce que je pense que un casque de réalité virtuelle, ça doit te laisser une autonomie et une liberté la plus grande possible, et le fait d'avoir des films, enfin moi ça me gêne beaucoup, ça casse complètement l'immersion, et c'est le reproche que j'avais fait à l'époque, il me semble, sur l'Oculus et le Vive. J'ai toujours pas essayé le casque PlayStation, et voilà. Mais moi, en fait, le souci que j'ai avec tout ce qui est réalité virtuelle pour l'instant, c'est qu'il n'y a aucun jeu qui me fasse me dire oh, c'est cool, je vais dépenser 400 euros pour m'acheter un casque, c'est incroyable, il faut ça maintenant tout de suite. C'est comme à l'époque, genre la Super Nintendo, quand tu l'avais vu chez moi, ou quand on avait testé la PlayStation 1 il y a super longtemps, on s'est dit c'est ça qu'il faut là maintenant tout de suite, c'est mortel. Et je pense que c'est le défaut de ces casques de réalité virtuelle aujourd'hui. Pour moi, l'utilisation idéale de ce genre de truc là, c'est genre t'as un copain qui en a, tu vas y jouer une heure chez lui pour essayer parce que c'est sympa, et après tu rentres chez toi parce que
parce que tu n'as pas d'intérêt à passer du temps avec ton copain. Bah oui.
Si tu commences à jouer un jeu en réalité virtuelle chez un pote, ça veut dire pas mal de choses. Mais bon, globalement voilà, y jouer avec le casque de quelqu'un, pour moi c'est la meilleure utilisation, parce que je vois je me vois pas dépenser 400 dollars là-dedans.
Même avec le Quest sans fil.
Non, tant qu'il n'y a pas d'app.
Il n'y a pas de killer game, quoi. Il y a pas de. Est-ce que tu as joué à Beat Saber ?
Oui, j'ai joué. Il est sympa. Ah, super sympa.
Ouais. Mais c'est vrai que même ces jeux que j'aime bien, Astrobot, Beat Saber, Super Hot VR,
bah, tu joues quelques heures, quoi. Tu vois,
Ouais. C'est des jeux qui sont bien, mais qui sont pas des system sellers, quoi. Je pense que je suis assez d'accord avec toi sur ce point. Je suis quand même assez curieux. 400 euros, ça fait un petit peu cher, ou 400 dollars, ça fait un petit peu cher pour un Oculus Quest, mais ça serait peut-être celui qui me convainc le plus. Et je me demande si je pourrais pas genre le justifier par c'est pour le boulot. Mais le problème, en fait, la raison pour laquelle je le ferais pas, c'est que il y a, entre guillemets, que 50 jeux. S'il y avait tous les jeux de l'Oculus, là, je me dirais, ouais, ok, banco, mais seulement 50 jeux.
Regarde ça d'une autre manière, en fait. Si tu l'achètes, ça permet à Oculus d'avoir plus de ventes sur le Quest. Et à mon avis, le Quest, c'est le futur. Et plus ils en vendent, plus il y a de chances qu'il y ait un Quest 2, un Quest 3, un Quest 4 et de plus en plus de jeux dessus. Donc, je te conseille de l'acheter. Je pourrais y jouer chez toi et me barrer au bout d'une heure parce que...
Voilà. Ah, voilà, oui, c'est ça, exactement.
Mais moi, je pense, ouais, le Quest, pour moi, c'est la façon que j'ai de visualiser la réalité virtuelle. Et j'espère que ce sera le futur de la réalité virtuelle.
Ouais, bon, donc écoute, je pense qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde là-dessus. Moi, je suis un petit peu plus enthousiaste, mais pas des tonnes non plus. Encore que je trouve que le PlayStation VR est quand même assez convaincant. Mais le truc qui nous a tous les deux un petit peu laissé froid, c'est le Valve Index VR qui a aussi été révélé en début de, enfin, courant de la semaine dernière. Il est en disponible pour les précommandes et il sera livré le 28 juin. Le truc, c'est que il est quand même s'il est intéressant avec ses manettes qui sont les manettes, je crois que c'est les Index justement, ou les Knuckles, je sais plus, ou Knuckles c'est peut-être chez Oculus, mais non, c'était le prototype de Valve. Avec, donc sur ces manettes, on a vraiment tous les doigts qui sont modélisés, on peut pointer de l'Index justement, etc., ce qui est cool. Mais entre le casque, les manettes et les totems, parce qu'il faut quand même utiliser les totems. Ah oui, entre parenthèses, avec le Oculus Quest, il y a un système assez malin où il modélise l'environnement autour de vous. Si vous avez donc il voit les murs, les meubles, tout ça, et si vous vous en rapprochez trop, il va vous les afficher puisqu'il y a la caméra pour vous placer, pour pas que vous. Mais c'est pas bête.
Mais ça c'est important, ouais. Sinon. Hein.
Et donc, le Valve Index VR, il a toujours besoin des totems. Donc, il faut quand même que vous ayez une grande pièce avec les totems placés pour vous placer justement dans l'espace. Et bien, avec tout ça, si vous devez tout acheter, oui, le casque lui-même seul ne coûte que 500 dollars.
Que 500 dollars, oui.
Ouais, mais avec les manettes et les totems, on en revient à 1000 dollars. Et j'ai pas l'impression que le casque, alors oui, il a peut-être une résolution qui est un petit peu meilleure, mais plus du double du prix pour un casque qui est juste un peu meilleur, je vous avoue que je comprends pas vraiment la politique de Valve là. Et ça fait longtemps que je comprends plus ce que fait Valve, mais là je suis, on va dire que c'est pas un facepalm, mais c'est un je secoue ma tête. Un petit peu de dépit, quoi.
Et je pense quand même que tu devrais le prendre pour le boulot, justement, ah ouais. Pour le tester.
Oui, sur celui-là, je pense que ça risque pas d'arriver. Hein. Ouais. Bon, il y a aussi l'Oculus Lens 2 qui est disponible plus tard dans l'année, qui coûte 3 500 $, mais ça, c'est vraiment pour les professionnels, justement. Donc, pardon, le réveil du bébé à 5h30 se fait sentir. Mais oui, là, c'est vraiment un autre, c'est un tout autre type de produit, donc c'est pas vraiment la peine de s'éterniser dessus. Mais oui, le casque de Valve, je suis très très dubitatif, on va dire. Nintendo a fait son Investors Call, un appel aux investisseurs, pas de son appel, mais son rapport aux investisseurs. En gros, on a des informations sur leur santé. Ils ont vendu au final sur l'année 17 millions de Switch, presque. En fait, ils espéraient en vendre 17 millions. Ils n'en ont pas vendu tout à fait 17 millions. Mais donc, ils ont raté leurs objectifs. Mais ils ont une base installée de 34,74 millions de Switch, ce qui est déjà plus que la Nintendo 64. Moi, ça me fait toujours rire de voir à quel point ils dépassent leurs anciennes consoles. C'est vraiment une preuve du succès insolent de la Switch. Et surtout, encore plus intéressant, ils annoncent espérer en vendre 18 millions sur l'année 2019. En contredisant les rumeurs qui estiment qu'ils vont sortir ou annoncer une nouvelle Switch à l'E3, une Switch un petit peu moins chère. Donc ils ont dit non, on ne va rien annoncer à l'E3, mais ils annoncent quand même que leurs objectifs sont de 18 millions de ventes de Switch sur 2019. Donc je te pose la question, Dani, est-ce que ça veut dire que la Switch moins chère sortira quand même en 2019, peut-être plus proche de la fin de l'année? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont tellement confiance en leur jeu pour 2019 qu'ils pensent en vendre plus en 2019 de leur Switch existante, de la classique, qu'en 2018?
J'ai loupé un truc où des super jeux qui vont vendre des palettes de Switch en 2019, il n'y en a pas un million non plus, quoi.
Moi, bah, y a Pokémon,
mais il y a Pokémon en fin d'année. Certes, mais Je sais pas. Écoute, je sais pas. Personne n'a rien vu en plus du Pokémon. Fire Emblem, de toute façon, ce sera pas forcément le jeu qui fera vendre 50 millions de Switch. Mais je pense qu'ils gardent ça en réserve pour faire une annonce un peu plus intéressante, peut-être au moment de la Gamescom ou en milieu fin d'année. Je pense que une nouvelle Switch en parallèle du lancement avec Pokémon épée et bouclier, ça peut être un bon boost pour les ventes en fin d'année.
Ouais, bon, donc on verra comment ça se passe, si c'est Pokémon ou une nouvelle Switch qui provoquera cette embellie des ventes de la Switch. Il y a une information intéressante sur le Nintendo Switch Online, 10 millions de comptes pour Nintendo, ce qui fait quand même 200 millions de dollars par an, comme ça, gratuit, bonus. C'est quand même... Je me souviens qu'il y avait des questions sur le Switch Online, et à l'époque, je me disais, mais oui, peut-être que tout le monde ne va pas s'abonner, mais enfin, même s'il y a la moitié des possesseurs de Switch qui s'abonnent, ou moins, mais enfin, en l'occurrence 10 millions, à 20 euros par an, bah, ça fait quand même une petite somme. Donc,
c'est pas mal, mais alors est-ce que c'est des comptes payants et actifs, ou est-ce que c'est juste des comptes créés qui ne sont pas forcément payants et ou actifs? Parce que c'est peut-être des comptes qui ont été créés avec des gens qui ont payé un mois et qui ont arrêté. Je ne sais pas comment c'est comptabilisé en fait.
Ouais, je ne suis pas certain non plus.
Ça me semble beaucoup quand même, hein.
Ouais, et peut-être que c'est des comptes qui sont plus actifs aujourd'hui, mais enfin, je doute que des gens s'abonnent un mois et s'arrêtent. Enfin, il y en a évidemment, mais je pense pas que c'est une majorité. Donc, même si on prend ça en compte sur les 6 derniers mois, tu vois, il a été lancé il y a 6 mois, je peux pas vraiment imaginer qu'il y ait énormément de gens qui soient désabonnés ou qui aient pris même un abonnement pour peut-être, moins d'un peut-être. An, tu vois.
Et y a le question que je me posais en fait sur cette news, c'est... combien, tu sais, la promotion avec Amazon Prime, combien est-ce que ça a aidé à créer de comptes parmi ces 10 millions?
Ouais, peut-être qu'il y en a eu quelques-uns, mais c'était des comptes de 3 mois, ouais. C'est ça?
Non, 3 mois, et à partir de septembre, c'est étendu à 1 an.
Mmh. Donc, si tu restes abonné à Amazon
super
Prime.
Super promotion, ouais. Exactement.
Ouais, ouais. Oh, je sais pas, je t'avoue. Mais bon, peut-être que c'est pas exactement 200 millions.
Mais c'est pas mal. En tout cas, 10 millions, c'est surprenant. C'est à peu près un tiers des consoles.
Ouais, ouais, un petit peu moins. On a des images de Mario Kart Tour, la version mobile. Je sais pas si tu les as vues, ces images qui sont censées venir d'une version en bêta test. Et j'ai pas fait une comparaison côte à côte. Sur la version Switch, mais j'ai presque l'impression que de voir la version Switch, et du coup je me dis si c'est pas un fake, une sorte de fake, mais si c'est ça la version mobile, c'est assez impressionnant quand même. Bon, ensuite il y a le problème des contrôles, hein, évidemment, oui. Qui sont toujours problématiques, mais
je pense que graphiquement, moi ça m'étonnerait pas, parce que les appareils récents quand même sont assez puissants. Et finalement, on regarde le processeur graphique de la Switch.
C'est un truc mobile, quoi. C'est Tegra. Voilà,
c'est Tegra, finalement. Et même si on revient en arrière, enfin, la Wii U, elle avait un processeur graphique correct. Honnêtement, je ne pense pas que les téléphones portables aujourd'hui soient tellement loin de ce type de puissance. Et honnêtement, graphiquement, c'est tout à fait honorable et acceptable, hein.
C'est pas faux,
ça m'étonnerait pas. Mais les contrôles, par contre, ouais, c'est...
ça, c'est
je serais curieux de voir
histoire,
comment ils vont s'en sortir. Oui.
Et bon, un petit rayon de soleil au Japon. Visiblement, Sega a été déçu des performances mobiles. Il s'était beaucoup orienté sur les jeux mobiles et ça n'a pas porté ses fruits. Et donc, il se reconcentre sur les consoles et le PC. Alors, on parle des sociétés, des développeurs japonais de Sega, parce qu'ils ont évidemment des développeurs occidentaux qui font beaucoup de jeux sur PC. Mais pour Sega Japon, ça n'a pas porté ses fruits, l'aventure mobile, parce que le marché est tellement concurrentiel et tellement basé sur le marketing plus que sur la qualité des jeux. Je crois que vraiment, sur mobile, il faut faire des bons jeux, mais ce n'est pas une condition sine qua non et tu peux compenser par le marketing. Sur console et PC...
Ils avaient fait des bons jeux sur mobile, ces gars ?
Je t'avoue que je n'en ai pas essayé beaucoup, mais le truc est tellement compétitif sur PC ou console, si tu fais des bons jeux, au moins tu es sûr d'en vendre au moins un peu, je crois, quand tu es un développeur comme Sega, auxquels les gens prêtent attention. Donc, bon, On verra ce que ça donne, mais je suis méchamment quand même un petit peu content que les choses se passent pas trop bien pour Sega Japon sur mobile, parce qu'ils s'étaient détournés de leur marché traditionnel, j'avais l'impression. Donc.
Et oui, c'est sûr. Et franchement, bon, moi, les jeux mobiles, ça m'a jamais tellement excité. Mais en revanche, j'ai peur que ça veut dire qu'il y aura un nouveau Sonic. Mais qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Qu'est-ce que Sega peut apporter maintenant en termes de jeux vidéo par rapport à leur 30 glorieuses qui date d'il y a un moment maintenant. Mais bon, j'ai espoir parce que bon, Sega, c'est notre adolescence, notre jeunesse, et c'était plein de jeux incroyables. J'espère qu'ils vont arriver à recentrer la balle là où il faut. Je crois que Sega, ouais. Ils font beaucoup de pachinko aussi, il me semble, au Japon, et c'est le gros de leur activité, si je ne me trompe pas.
Eh ben, mais justement, ça n'a pas trop marché non plus derniers temps.
D'accord.
Donc... Ça veut dire que peut-être. Mais bon. Oui, c'est vrai que, disons qu'ils se sont concentrés sur le mobile il y a quoi ? Ils ont pris cette décision il y a 2 ans peut-être, et c'est pas que sur les années d'avant, Sega était inoubliable, mais bon.
Non, c'est ça.
Mais tu vois, il y a des développeurs qui ont fait des trucs avec des propriétés Sega, on pense notamment à Sonic Mania, mais bon, oui. Bref, c'est Sega, est-ce que c'est...
C'est pour ça que je mentionnais Sonic, c'était mais à part ça...
Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vont nous dire ah mais tu te rends pas compte ces gars Alter Beast, Outrun, machin.
Non, mais bon, je suis tout à fait d'accord. Si ils font un Shinobi arcade, juste qu'ils le ressortent sur PS4 ou Switch, moi je l'achète.
Mais tu sais qu'un Shinobi même pas ressorti, un Shinobi mis au goût du jour aujourd'hui, genre un vrai jeu de ninja, ne serait-ce que pour la nostalgie, ils auraient tout de suite l'attention de l'intégralité des gamers.
Tout à fait. Et il y en avait un qui était pas mal, qui était sorti justement par Sega, un Shinobi sur PS2, je crois, il y a 15 ans. Et il était tout à fait honorable, donc j'espère.
Peut-être. Ouais, moi, j'aimerais bien savoir ce que donnerait Altered Beast en moderne.
Il a quand même beaucoup vieilli. Hein.
Oui, non, mais tu vois, en coop, à te transformer en loup-garou et tout, c'est sympa.
Moi, je prendrais le dragon.
Évidemment. Bon, on va passer rapidement sur les autres petites news. D'abord, PlayStation Plus, ce mois-ci, il y a Overcooked et What Remains of Edith Finch.
Overcooked donc, 2, non ? J'espère.
C'est le 2 ? Non, je crois que c'est le 1.
Oui. Ah bon ?
Ah non ?
Le 1, il l'avait... Honnêtement, je ne sais pas, je n'ai pas suivi.
Il l'avait déjà donné, je ne crois pas. Non, il y avait une démo.
D'accord, peut-être, je ne sais pas.
Non, je crois bien que c'est juste le 1. Mais,
Edith Finch était pas mal.
Pas mal, ouais. Je crois que c'est deux jeux à ne pas rater si vous êtes abonné PlayStation Plus. Et si vous êtes...
Mais c'est un peu moins fou que sur Xbox.
Alors oui, sur Xbox, mais c'est le Game Pass, hein, c'est pas le live. Oui, mais si vous êtes abonné au Game Pass, Wolfenstein 2, qui est l'un de mes jeux de l'année, c'était 2017, je sais plus, je crois. Vraiment hyper, hyper bon.
Super.
Surge, auquel j'ai pas joué, et Black Desert Online, qui est un MMO en ligne. Mais bon, Wolfenstein 2, c'est...
Sur le Game Pass, c'est génial, ouais.
C'est
à faire.
C'est, plus ça va, plus le Game Pass. Moi, je pense que... la prochaine console, je me la prendrai avec un Game Pass et puis voilà. Et quoi d'autre ? Ah oui, tiens, pour conclure, le film Sonic, je ne sais pas si tu as vu les images.
Oui, j'ai suivi. Le mieux que j'ai vu sur le film Sonic, c'était quand même des gens qui avaient repris le design de Sonic en lui rajoutant des tétons. Et j'avais trouvé ça, mais à hurler de rire. Il faudrait que je retrouve la photo pour te l'envoyer. C'est génial parce que c'est tellement, ça sonne tellement juste. C'est ignoble, et oui, donc...
Bon, je pense que l'intégralité des auditeurs a vu ces images du design de Sonic dont on avait très très peur quand on avait vu les premières il y a quelques mois de ça, ou quelques semaines, et ça a confirmé avec le trailer l'horreur qu'est ce design de Sonic, à tel point, et il y a eu un tel retour de bâton, que le réalisateur a déclaré qu'ils allaient changer le design de Sonic, mais bon, sans changer la date de sortie du film, ce qui veut dire que évidemment les animateurs vont devoir s'enchaîner des semaines de travail infernales, et les modelers vont devoir bosser comme des fous. Mais je comprends pas comment. Autant souvent, face aux réactions du net, je me dis « Ouais, bon, n'exagérez pas, c'est quand même pas la fin du monde, ou pourquoi est-ce que vous êtes aussi catégorique, etc. » et pourquoi est-ce que vous êtes aussi véhément? Mais là, c'est même pas une question de véhémence, c'est une incompréhension totale. Qui a accepté que Sonic soit designé? On dirait un costume pourri de Sonic dans lequel on a mis un quelqu'un avec une grosse tête, genre Disneyland, mais même que les costumes de Mickey à Disneyland sont mieux foutus, quoi. C'est genre, tu sais, le costume que t'achètes sur un site genre Alibaba fabriqué en Chine, genre avec la description, c'est Sonic costume pour Halloween, et ça ressemble en rien à ce que t'avais sur les illustrations sur le site, quoi.
Non, mais j'irais même plus loin que ça. Attends, tu parles de Halloween et tout, mais le déguisement de clown méchant de Halloween fait moins peur que ce truc de Sonic, quoi. Honnêtement, t'emmènes, imagine que ton fils ait quelques années de plus, t'emmènes voir ça au cinéma, mais il va plus jamais endormir de sa vie, quoi. Alors que Sonic, c'est censé être mignon. Tu regardes Sonic, tu regardes Tails, ils sont adorables, tu vois, c'est choupi, c'est... Et là, non, mais... Je comprends pas qu'il y ait des gens qui puissent s'asseoir autour d'une table. Non, ouais, c'est celui-là qu'on va garder. Il est fantastique. Je ne comprends pas.
Est-ce qu'ils ont
vu le jeu?
Est-ce qu'ils ont eu l'accord de Sega? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez Sega? Ou peut-être qu'ils n'ont pas le droit de regard, je ne sais pas.
Oui, mais c'est pas possible.
Tu sais, si j'étais Sega et que je voyais ça arriver, je dirais, mais... Non, mais on se... Enfin, peut-être qu'ils ont tellement besoin d'argent, ils se disent, ça va nous rapporter un petit peu. Mais... Et le pire, c'est qu'ils vont refaire le design du Sonic... Mais le film autour reste ce qu'il est. Ça a pas l'air tellement, tellement mieux. Et ce qui est marrant, c'est que on a deux approches qui pourraient être comparables entre ça et Détective Pikachu. Et franchement, oui. Détective Pikachu, y a eu des mouvements de surprise, on va dire, et un petit peu de rejet quand on a vu les premières images. Mais franchement, moi, qui suis pas super fan de la série, et de la même manière, je suis pas méga fan de Sonic non plus. Je trouve que c'est le jour et la nuit. Pikachu, ils réussissent à intégrer un Pikachu mignon qui ressemble en plus vaguement au design d'origine dans un monde réaliste, dans un monde réel. Là, c'est genre comment l'intégrer, la même approche, comment l'intégrer au monde en utilisant le design d'origine. Mais c'est un tel ratage. Et Pikachu, c'est assez parfait, je trouve. Enfin, je comprends pas. Je sais pas.
Bah justement, Détective Pikachu, par exemple, je vais aller le voir au cinéma. Sonic, même si tu me payes, je n'irai pas le voir.
Je crois
ça dépend combien ensuite, mais.
Ouais, c'est ça. Mais je crois que moi, je sens que, si tu veux, on pourrait avoir une. Il y a plusieurs personnes qui ont fait cette plaisanterie. Le Pikachu qui est le début du Nintendo Cinematic Universe et Sonic, ça serait plutôt l'équivalent du DC Extended Universe avec ses ratages à répétition.
Ouais.
Mais bon. Le design va être changé, ce qui est, je pense, là pour le coup.
C'est le minimum. Le film ensuite, on verra les qualités qu'il aura. Ouais. Mais de toute façon, les adaptations de jeux vidéo au cinéma, en général, pas toujours réussi.
Oui, mais enfin, il n'y a pas réussi, et puis il y a Sonic, quoi.
Oui.
Entre pas réussi et Sonic, il y a un monde. Allez, juste très rapidement pour mentionner le fait que il y a eu plusieurs articles sur le crunch dans le monde du jeu vidéo qui sont sortis suite à l'article sur BioWare et Anthem. On a vu un article sur Epic et Fortnite, chez qui ça a l'air de pas être du tout la rigolade pour suivre le succès de Fortnite, justement. Chez NetherRealm pour les différents Mortal Kombat. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Mortal Kombat 11, mais bon, c'est Mortal Kombat, et si vous aimez Mortal Kombat, vous aimerez. Mais visiblement, ce qu'ils font chez NetherRealm, c'est un truc assez vicieux, c'est qu'ils utilisent beaucoup de travailleurs en contractuels, et ils sont très très mal traités, là où les employés sont bien traités. Les travailleurs contractuels ont la pression, ils travaillent ils font des heures de folie, et c'est beaucoup de très jeunes auxquels on fait genre des demi-promesses qui pourraient avoir un emploi chez NetherRealm permanent ensuite, mais avec qui ça se concrétise jamais. Donc quelque chose de vraiment pas très propre chez NetherRealm, et on en a beaucoup parlé dans l'émission, donc je vais pas non plus refaire le laïus à chaque fois, mais je crois que ça montre à quel point l'industrie doit mûrir, et on doit avoir des règles qui se mettent en place, que ça passe par une syndicalisation au sens peut-être américain donc qui établissent des règles pour cette industrie ou par autre chose. Je crois qu'il est plus que temps. Et là, c'est une un des exemples supplémentaires où quand on va lire l'article de US Gamer, c'est assez horrifiant quoi, ce qu'on lit là-dessus. Alors évidemment, ensuite, on a les différents côtés de l'histoire, mais il n'empêche qu'on commence à avoir tellement d'exemples et tellement de rapports avec tous les développeurs qui disent « bah oui, c'est un petit peu pareil chez moi », à un moment, il faut que les choses évoluent, quoi. Donc voilà, sur ce petit rapport. Et entre parenthèses, Respawn, chez Respawn, pour Apex Legends, ils ont dit un petit peu le contraire. Ils disaient justement, on ne va pas mettre le jeu à jour tous les jours parce qu'on veut que nos employés aient une vie. Et donc, on est des vétérans de l'industrie, on sait comment ça se passe. Et on privilégie la qualité de vie des employés plutôt que le crunch permanent. Alors, à voir ensuite si ça affecte le succès d'Apex Legends. Évidemment, il a un petit peu chuté de son succès d'origine, mais ça, c'était à prévoir. Mais bon, j'ai pas la réponse là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que les choses sont compliquées. Et puis, c'est à peu près tout. Je vais donc conclure cet épisode en donnant la parole à Dany. Est-ce que tu peux nous dire si tu as une activité sur Internet que les gens peuvent suivre s'ils veulent un peu plus de tes analyses pertinentes ?
Oh, totalement incroyable. Bon, la dernière fois que j'ai dû poster un message dessus, c'était longtemps, mais je consulte très très régulièrement Twitter, plusieurs fois par jour. Et donc mon handle Twitter, c'est @notdany. Donc note Dany, D-A-N-Y, comme toi en fait, à peu près.
Oui,
on a quasiment le même handle, c'est dingue hein, les coïncidences.
Coïncidence de fou. Effectivement, et si vous avez une question à lui poser, je pense que Twitter est sans doute le meilleur endroit. Pour ma part, c'est Twitter NotPatrick sur Twitter, Facebook et sur Instagram. Vous pouvez aussi laisser des commentaires par exemple sur iTunes ou des notes comme l'a fait FFR Solid Snake sur le iTunes français qui nous dit on en veut plus. En gros, il dit ah Patrick, depuis que je suis...
T'es sûr que c'est on en veut plus et pas on en veut plus?
Écoute, le commentaire d'après, en fait, il dit qu'il apprécie donc le rendez-vous tech et qu'il voudrait qu'il y en ait plus. Donc, le rendez-vous jeu. et il dit qu'il y a trop de rendez-vous tech, justement. Bon, ça, c'est une question de goût. Et pas assez de rendez-vous jeu. Donc, je pense qu'il dit qu'il en veut plus et pas plus.
On n'en veut plus de rendez-vous tech, mais on en veut plus de rendez-vous jeu.
C'est ça. Bon, moi, j'aimerais bien faire plus de rendez-vous jeu et autant que de rendez-vous tech. Mais bon, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Peut-être à terme. On verra ce qui se passe à l'avenir. Seul l'avenir. Nous le dira. Et donc, c'est sur ces bons mots qu'on va conclure l'épisode. Si vous avez des choses à dire en commentaire, vous pouvez aussi le faire sur le blog de l'émission sur frenchspin.fr. Et n'hésitez pas à dire à vos amis d'écouter l'émission. Si vous pensez qu'ils bénéficieraient d'une écoute du rendez-vous jeu, eh bien, n'hésitez pas à leur dire, parce que dans le monde des podcasts, le meilleur moyen de les faire connaître, c'est de parler, c'est le bouche à oreille. Donc, parlez-en à vos amis. Le rendez-vous jeu sur leur app de podcast, c'est très simple, c'est rapide et ça leur fait évidemment plaisir. Et moi, ça me fait très plaisir aussi.
Et moi, je propose un truc d'ailleurs en parlant de ça, parce que on en veut plus, d'accord, mais il faut justement que tu aies plein de gens qui viennent te demander, il en faut plus, il en faut plus, il en faut plus. Et si tu augmentes beaucoup, beaucoup ton nombre d'auditeurs sur le rendez-vous jeu, je suis sûr que tu seras obligé de céder à la pression populaire.
Ah oui, non, mais c'est pas impossible. Allez-y, les gens. Venez demander un rendez-vous jeu hebdomadaire, c'est ça? Bon,
on va. Bah exactement.
J'y réfléchis tout le temps, j'aimerais, mais après, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, quoi. C'est déjà beaucoup de boulot, donc... d'ailleurs, FFR Solid Snake dit « Peut-être que tu pourrais financer ton émission », et j'en parle ici et là de temps en temps, mais je finance déjà le rendez-vous tech avec un financement participatif. Il y a des gens qui donnent pour les deux, c'est des... Enfin bon, bref, mais peut-être que ça serait une option à terme, pourquoi pas. L'émission arrive à ses 5 ans et ça serait peut-être envisageable, mais bon... On y réfléchit et j'y pense, et le rendez-vous jeu, pour moi, les deux émissions principales, c'est le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, donc ça serait logique, mais à voir. Mais si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire, effectivement, comme le dit Dany.
Et des millions de fans vont te hurler pour que tu le... La semaine prochaine, c'est bon, ça sera lancé.
Ça sera lancé, ouais. On se quitte ici et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Je vous fais de grosses bises à tous et à très très vite. Ciao ciao.